Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités. Donc, l'actualité essentielle, c'est le budget. Tout le monde en parle. Et nous, on va tout de suite démarrer avec David Yerda de Varenne Capital. Donc, habitué de nos plateaux, il vient régulièrement, habitué de nos encours. Enfin, pas tout à fait lui, mais les fonds dont il va nous parler sont habitués d'être présents dans nos encours depuis longtemps. Deux nouveaux fonds, un qu'on vous a déjà présenté, ou en tout cas à ceux de nos clients qui sont un petit peu concernés par ça, et un sur lequel on a été beaucoup plus discret, et lui va peut-être un petit peu plus nous en parler. Bonsoir David, ravi de vous avoir parmi nous. Eh ben, le seul mot que j'ai à vous dire, c'est que c'est à vous maintenant.
Bonsoir Bernard, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je suis ravi d'être là. Comme vous le disiez, ça fait plusieurs fois que je participe et je suis ravi d'être parmi vous. J'en profite pour vous remercier pour la confiance, puisque si on est dans les allocations, c'est que vous nous faites confiance. Alors peut-être deux, trois mots sur la société avant de passer au produit, au fond. Varenne Capital est une société de gestion française indépendante. On n'est plus très nombreux dans ce cas, donc on aime bien le rappeler. On est dans un monde qui sont consolide, donc on est indépendant et fier de l'être et on a vocation à le rester. On gère aujourd'hui un peu moins de 3 milliards d'euros. On doit être à 2 milliards 7 environ. On s'est connu quand la société était beaucoup plus petite. Donc on a bien grossi, même si la taille stagne à peu près depuis 2-3 ans. Ça ne nous a pas empêché de continuer à étoffer les équipes, puisqu'aujourd'hui on est 49 collaborateurs chez Varenne, dont 20 personnes exclusivement dédiées à la gestion. Je le dis parce que pour une société de notre taille, avoir 20 personnes qui gèrent, c'est beaucoup. Et ça a toujours été le leitmotiv chez nous. C'est d'abord de structurer les équipes de gestion, de délivrer la meilleure gestion possible pour avoir les meilleures performances possibles au bout de la chaîne. On existe depuis un peu plus de 20 ans, je l'ai dit. Et l'ADN de Varenne, depuis 20 ans, il s'est construit autour de quatre moteurs de performance, quatre stratégies de gestion complémentaires. On vient du long action. Le long action, c'est quoi? C'est le fait de sélectionner des entreprises de qualité. Et là-dessus, il y a eu un peu d'évolution, peut-être qu'on en parlera, Bernard, si vous le voulez, sur la façon de sélectionner les entreprises. Donc, on vient de là, c'est sélectionner un nombre d'entreprises restreint, de qualité, qui vont générer de la performance dans le temps. Et ça, c'est ce qui va générer de la performance sur le long terme. Sur les fonds historiques que vous utilisez depuis longtemps, Varenne Valeur et Varenne Global, on a développé autour des stratégies de décorrélation et de couverture. On peut faire du short, donc prendre des positions vendeuses. On peut faire de l'arbitrage de fusion-acquisition. Et on fait ce qu'on appelle des couvertures macroéconomiques contre les risques extrêmes. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'accorder une assurance, un budget maximal d'1,5% par an pour nous protéger contre les risques majeurs. Donc ça, ces quatre stratégies, elles sont présentes, pardon, sur tous nos fonds historiques, Varenne Valeur et Varenne Global notamment. Avec ce qui va différencier ces deux fonds de façon extrêmement simpliste, c'est que Varenne Valeur est moins investi, il investit environ à 2/3. Donc c'est une ADN un peu moins dynamique que son petit cousin Varenne Global, qui lui est totalement investi, mais toujours avec ses quatre stratégies de gestion. L'évolution chez nous, dont vous avez touché un mot rapidement, l'évolution de notre gestion nous a permis, au 15 décembre de l'année dernière, au 15 décembre de l'année 2023, de créer deux nouveaux fonds. Un fonds qui s'appelle Varenne Long Short, qui a uniquement les stratégies long et short, et qui est investi à 1/3. Et un fonds pure action internationale qui s'appelle Varenne Conviction. C'est celui-là sur lequel vous disiez que vous avez été un petit peu plus discret. Il est plus jeune. C'est uniquement la poche long action de nos fonds, donc notre sélection d'entreprises de qualité pour lequel je pense Varenne a une certaine renommée depuis longtemps. Cette sélection, ce choix d'entreprise, ça serait intéressant, je pense, d'y revenir, sans les autres stratégies autour. Donc là, c'est un fonds pure action internationale, 100% investi, sans les autres stratégies. Voilà. Donc, on a extrait de l'ADN historique de Varenne uniquement cette stratégie cœur. Et pour ceux qui sont intéressés uniquement par la stratégie action, qui ont du temps devant eux, qui sont prêts à subir peut-être un peu plus de secousses, alors c'est intéressant d'avoir ce fonds-là qui
Alors,
est
attendez,
investi.
je vais juste vous arrêter une toute
Je vous en
petite minute
prie.
pour qu'on fasse un petit peu un point. Donc, si on comprend bien votre stratégie, donc dans les trois fonds, valeurs globales et convictions, qui vont être gérés peut-être différemment, on va retrouver les mêmes valeurs.
Que j'allais dire, exactement. C'est aussi l'évolution de notre gestion et notamment sur la partie technologique, on peut en parler, qui a généré ça. C'est qu'aujourd'hui, dans les trois fonds que vous avez cités, on a la même poche longue action avec les mêmes 30 à 35 lignes en portefeuille, marché développé, Europe et États-Unis. Il y a des règles de construction de portefeuille en fonction du dynamisme des fonds qui vont faire que les poids peuvent varier, mais vous retrouvez les mêmes entreprises.
D'accord. Et donc, la différence du rendement et dans le temps et année après année va se faire par rapport, si on a des marchés haussiers, donc si on a des marchés haussiers où tout se passe bien, on va automatiquement avoir, alors on ne va pas parler de conviction parce qu'il est tout neuf, mais on va automatiquement avoir global qui va l'emporter sur valeur. Et quand on a des marchés, on va dire vraiment baissier tout au long de l'année, ça va être le contraire. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des marchés un petit peu complexes, compliqués, esquintés, bizarroïdes, ça tourne, ça vient, enfin des choses pas claires. Est-ce que là aussi, le moins risqué va toujours l'emporter ou est-ce qu'on a des années un petit peu bizarres où on peut avoir des surprises?
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. La question est extrêmement pertinente et c'est comme ça qu'il faut regarder notre gestion et je vous en remercie. Quand tout va bien, je prends l'exemple de l'année dernière, un marché plus, alors je mets de côté un peu le CAC 40, mais des marchés qui sont plutôt bien orientés partout dans le monde. Varenne Valeur finit environ à 7%, un tout petit peu en dessous. Varenne Global finit à un peu plus de 12, de 11%, pardon, donc 7, 11. Et Varenne Conviction, je le cite quand même parce qu'on a une année pleine, finit à 13%. Donc, on respecte totalement le positionnement des différents véhicules. Quand tout va mal, si on a un marché qui fait moins 30, je caricature, a priori, Conviction sera celui qui sera le plus emporté. Varenne Valeur, qui a un niveau d'exposition un peu plus faible, résistera mieux. Et Varenne Global sera probablement entre les deux, même s'il embarque quand même le dispositif de couverture macro. Donc, potentiellement, il peut amortir de façon importante. Sachant que le dispositif de couverture macro, là, on rentre un peu dans la technique, mais est quand même adapté au niveau d'exposition du fonds. Donc, Varenne Global embarque un dispositif de couverture macro qui est un peu plus important que Varenne Valeur. Dans un marché intermédiaire, c'est peut-être l'environnement qui est le plus compliqué pour nous. Un marché qui perdrait jusqu'à 10%, a priori, la sélection d'entreprise va suffire à amortir la baisse. C'est ce qu'on a connu historiquement chez Varenne. Un marché bizarroïde, alors je sais pas exactement ce que vous voulez dire, ce que vous appelez un marché bizarroïde, mais un marché qui partirait un peu dans tous les sens, a priori, c'est lui qui protégera le plus, c'est Varenne Valeur qui est moins investi. Est-ce que je
Bon,
réponds à la question, Bernard?
oui, bien sûr, vous répondez à la question, mais pour clarifier, un marché bizarroïde, c'est un marché qui monte, puis qui baisse, puis qui remonte, puis qui rebaisse, et en fin de compte, c'est dans le dernier trimestre de l'année que tout se décide, et soit on a une année haussière parce que ça se finit bien, soit on a une année baissière parce que ça se finit mal. Mais
C'est un
bon.
point très important, pardon, mais justement par rapport à la question d'avant, c'est qu'en effet, ça se finit souvent au dernier trimestre, et c'est pour ça que notre dispositif de couverture, c'est des options souvent, pour ceux qui sont plus techniciens, qui ont des maturités qui sont plus ou moins vers la fin de l'année, pour les raisons que vous indiquez. Donc si jamais tout baisse et que le marché casse à la fin, alors là, les parachutes s'ouvriront complètement.
Alors, maintenant, avant que vous nous expliquiez un petit peu la gestion et les choses comme ça, et ce qui serait bien, c'est d'avoir de la comparaison ou alors de la relation de cause à effet. Qui et quand achète-t-on Varenne Valeur? Qui et quand achète-t-on Varenne Global? Et la même chose pour Conviction. C'est-à-dire que je vais vous donner des nombres. Voilà. Moi, je n'ai pas peur. Je pense que les marchés actions vont monter. Je pense que peut-être ça peut baisser cette année, peut-être ça peut baisser l'année prochaine. Mais je suis persuadé que dans 20 ans, ben, j'aurai mes marchés nettement au-dessus du point d'aujourd'hui, ou dans 5 ans, ou dans 7 ans, ou dans 9 ans. Mais en tout cas, je n'ai pas peur d'un coup d'arrêt. Donc, ce que je me dis, je peux chercher. Bon gérant européen, bon gérant américain, je peux acheter un indice aussi, je peux acheter un indice mondial. Et là, je me dis, bah voilà, Varenne me fait une proposition, j'achète quoi chez Varenne et quelles sont mes chances en achetant un des produits de Varenne ou deux produits de Varenne dont vous allez, que vous allez citer, de battre très bon fonds européen, c'est très bon fonds américain, et ces indices qui ne reflètent que la réalité du marché.
Oui, c'est très intéressant. Alors, Pour apporter un peu de sourire, on a créé justement ces nouveaux véhicules pour aujourd'hui avoir sur l'étagère différents produits avec des niveaux de risque différents et pas mettre un fond en avant plutôt qu'un autre à un moment et pas faire le travail du choix du fond pour le client. Donc, mais je vais le faire quand même évidemment. Donc la réponse, ça serait de dire que le choix du fond, il est à faire en fonction de l'appétence au risque du client final ou du niveau d'investissement, de l'horizon d'investissement. Plusieurs éléments qui me paraissent importants. Un, c'est l'environnement long terme. Vous l'avez dit, je partage totalement votre sentiment. Sur un horizon long terme, sur 10, 15, 20 ans, je pense aussi que les marchés actions seront haussiers. Donc, si vous êtes sur du long terme, que vous n'avez pas besoin de votre épargne, allez sur Varenne Conviction, c'est évidemment le bon choix. Simplement, si on regarde la performance du fonds tous les jours, ça risque d'être un fonds qui aura un petit peu plus de volatilité et potentiellement ce qu'on appelle des drawdowns, donc des moments de baisse potentiellement plus importants. Mais je suis convaincu que sur le long terme, c'est le meilleur choix. Après, si vous avez besoin d'une épargne à un horizon un peu plus court, mais que vous voulez profiter du potentiel de hausse des marchés, bah, Varenne Valeur, c'est exactement le positionnement du fonds. Nous, on dit, alors c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais on dit que c'est un fonds qui est plutôt cœur de portefeuille. En gros, vous êtes investi, mais pas à 100%, vous êtes investi à deux tiers, vous avez une bonne sélection d'entreprises, mais vous avez autour les stratégies qui permettent d'apporter la décorrélation et la couverture. Donc, ça vous permet d'être un peu plus relax, j'allais dire, et de subir un peu moins la volatilité. Globalement, Varenne Valeur, c'est un fonds qui, sur les différents horizons temporels, a une volatilité de 10%, donc inférieure de deux fois à celle du marché. Et enfin, Varenne Global, bah, vous êtes beaucoup plus dynamique, mais vous profitez de l'expertise de Varenne, vous embarquez également les couvertures. Donc là, c'est aussi un super fonds. Donc je pense que c'est vraiment en fonction de l'appétence au risque, de évidemment l'âge, de la disponibilité de l'épargne. Mais c'est exactement l'idée, et je vous remercie de me poser la question, d'avoir ces différents fonds dans l'étagère. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, nous, des fonds obligataires, des fonds monétaires. On va se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur l'ADN de Varenne depuis 20 ans, mais avec des produits, des fonds qui ont des niveaux de risque différents. Et ensuite, la deuxième partie de la question est extrêmement pertinente, surtout en ce moment. C'était extrêmement compliqué, ne nous cachons pas, de battre les indices pour les gérants depuis quelques années. Nous, on pense, et j'en parlais ce matin avec l'équipe de gestion chez nous, c'est pas la méthode Coué, mais on pense qu'on est dans un environnement qui sera beaucoup plus favorable aujourd'hui à la gestion active. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure quand on parle de macro, mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe pour des raisons totalement différentes, on pense qu'on rentre dans un environnement qui va être pour les stock pickers, pour ceux qui, comme nous, sont capables de sélectionner les bonnes entreprises au bon moment. Je peux vous donner deux exemples. Aux États-Unis, on parle tous des Mag 7, on parle tous de la technologie qui est en train de bloquer Paris encore aujourd'hui, le forum qui a lieu à Paris sur l'intelligence artificielle. On pense que les entreprises qui seront capables, ce que je vais vous dire paraît un peu tarte à la crème, mais pour nous c'est fondamental, les entreprises qui vont être capables aux États-Unis de profiter de cet environnement favorable pour l'intelligence artificielle, pour la technologie, qui vont être capables d'utiliser les données, ce qu'on appelle les data, l'automatisation, vont être celles qui vont tirer leur épingle du jeu. À nous d'aller sélectionner parmi les 500 du S&P, le gérant me disait tout à l'heure, les 493, indépendamment des Mag 7, des 493 qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc, allez faire du bon stock picking et aller sélectionner les bonnes entreprises. En Europe, l'Europe est très décriée, évidemment, un environnement très compliqué, politique, budgétaire, on connaît tous les nuages qu'on a au-dessus de la tête. Néanmoins, les entreprises en Europe ont toujours été extrêmement bonnes en exportation. Il y a des entreprises en Europe qui font une très grande partie de leur chiffre d'affaires en dehors de l'Europe et qui sont totalement sous-valorisées aujourd'hui. À nous, en Europe, d'aller chercher ces bons candidats qui demain pourront tirer bénéfice même si l'environnement global est beaucoup plus compliqué.
Alors,
Donc,
on n'a pas le temps de rentrer dans de rentrer dans le sujet avec, avec les indices, mais juste en deux mots. Donc, OK, cette année, ça va peut-être être une année des stock pickers pour X ou Y raison. Mais est-ce que vous pensez que de la manière dont le monde et de la manière dont la finance s'organise, et de la manière dont les flux mènent la danse, est-ce que vous pensez que sur une période longue, un gérant, un stock picker peut encore battre l'indice? Et alors quand je dis battre l'indice, je ne vais pas dire qu'on va avoir un indice qui va avoir fait sur 15 ans 128% et le gérant va avoir fait 131% ou 132%. Parce que ça, c'est la même chose en réalité. Mais est-ce que sur une longue période, avec la manière dont la finance s'organise aujourd'hui et la manière où les capitaux se gèrent et les capitaux se font, est-ce qu'on peut avoir un gérant qui va vraiment battre? C'est-à-dire, il y en a un qui fait 100 et l'autre il fait 120. Et là, on dit, bah, il y a 20% de plus sur 10 ans, c'est beaucoup.
Alors nous, on en est totalement convaincus. En revanche, on pense qu'il faut faire évoluer la façon de travailler et la façon de gérer. C'est-à-dire que on est convaincus chez Varenne qu'on ne gère plus aujourd'hui comme on gérait il y a 10 ou 15 ans. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous, on a fait évoluer notre façon de travailler. Quand Varenne est né, il y a 20 ans, et jusqu'à il y a quelques années, on faisait uniquement du fondamental. C'est-à-dire qu'on sélectionnait les entreprises avec des filtres fondamentaux. En gros, on n'a pas le temps de trop développer, mais on allait voir deux éléments principaux. Un, la qualité économique des entreprises qu'on sélectionnait, et deux, la décote. C'est-à-dire combien ça cote et combien ça vaut pour nous. Si on avait ces deux paramètres, alors on sélectionnait les entreprises et on espérait que ça génère de la performance, et ça a extrêmement bien marché. Depuis quelques années, pour les raisons que vous indiquez, le monde qui change, les ordinateurs, le trading qui évolue, etc., on pense que ça suffit plus. Et c'est exactement pour cette raison, je disais en préambule que notre façon de gérer et de sélectionner les entreprises avait évolué. C'est exactement pour ça qu'on a développé une deuxième équipe de sélection d'entreprises algorithmique qui va mélanger du fondamental et du comportemental dans des outils qu'on a développés chez nous, des algorithmes qui ont été développés chez nous, qui vont regarder ce qu'on fait chez Varenne depuis plus de 20 ans et qui permettent de sélectionner des entreprises en croissance ou en forte croissance. Et on pense aujourd'hui que le fait de mélanger à la fois la partie fondamentale et la partie plus algorithmique, c'est extrêmement complémentaire. C'est des horizons de temps qui sont différents. Exemple très concret, la partie algorithmique, elle a rentré du Nvidia dans nos portefeuilles en septembre 2023. C'est le meilleur contributeur à la performance de nos fonds en 2023, en 2024. Donc on n'a rien inventé, hein. On n'était pas les seuls. Mais simplement, si on avait eu que le fondamental, on n'aurait jamais rentré Nvidia. Le fait de mélanger aujourd'hui le fondamental et la partie algorithmique, on pense que ça apporte énormément de valeur et que c'est une des raisons qui nous permettra de battre les indices sur un temps long, même si je vous le concède, ça devient extrêmement compliqué.
Alors, les trois fonds dont on a parlé, valeur globale et conviction, vous avez mis des indices de référence pour éclairer le client qui voudrait rentrer ou pour vous donner à vous un challenge et une manière de compter si vraiment vous les battez ou si vraiment vous les battez pas?
Alors, sur valeur et sur global, c'est plus compliqué parce que c'est des gestions multi-stratégies. En revanche, sur le fonds Varenne Conviction, qui est un fonds pure action 100%, il y a un indice action, c'est le MSCI World.
D'accord.
Alors, le fonds est très récent, donc il faut regarder sur un temps plus long, puisqu'il a, il a à peine plus d'un an.
Ok, alors maintenant, je reviens à ma question d'avant où j'aimerais bien une réponse un petit peu plus complète. Donc, c'est très simple. Un investisseur pense que les marchés actions vont se développer dans les années à venir. Il ne veut pas choisir de place, mais il pense que c'est le monde qui va croître. Là, je mets juste une parenthèse. Ne pas choisir de place, c'est choisir les États-Unis quand même. Puisque dans l'indice monde, suivant comment on calcule, c'est entre 65 et 70% des US. Et même si les US devaient baisser de 15 ou 20%, ça resterait largement, largement au-dessus de 50. Donc, choisir le monde, c'est choisir les US aussi. Mais comment est-ce que vous pourriez définir, et là on est en train de dépasser notre temps, donc vraiment une, 2 minutes, comment est-ce que vous pourriez définir la typologie d'un investisseur? C'est-à-dire que celui qui va acheter global, c'est quelqu'un qui a un portefeuille où d'habitude il a 70% d'actions et le reste des produits beaucoup plus prudents. Et celui qui va acheter valeur, c'est quelqu'un qui a jamais plus que 40-50% d'actions dans son portefeuille. Comment est-ce que vous essayerez d'aborder le personnage qui viendrait acheter valeur globale?
Oui, je pense que c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Varenne Valeur, c'est un fonds qui est beaucoup plus prudent dans son approche, même s'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie quand on investit à deux tiers en actions. Et c'est quelqu'un qui aura probablement confiance dans les marchés actions, puisque il y a deux tiers d'actions en portefeuille. Et que, évidemment, l'idée, c'est de faire, de générer de l'alpha, de la performance grâce à cette stratégie-là. Quelqu'un qui va aller sur Varenne Global, c'est quelqu'un qui sera capable de prendre plus de risques et qui aura confiance dans les marchés sur un horizon plus long terme. Donc il y a vraiment cette différence entre deux tiers et 100%. Après, la raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué de répondre pour moi directement, c'est que là, on fait une réponse comme si la personne qui investissait avait uniquement l'un ou l'autre des fonds en portefeuille. Ça arrive que Varenne Valeur soit le fonds le plus dynamique d'une allocation, ou à l'inverse, le plus prudent d'une allocation action. Donc ça dépend aussi comment vous le construisez dans le portefeuille. Mais la façon dont il faut voir de façon brute ces deux fonds, c'est un qui est beaucoup plus cœur de portefeuille, moins investi, mais sur les marchés développés, et je reprends ce que vous avez dit sur les États-Unis, on est totalement d'accord. On est sur les dernières années en moyenne 50% Europe, 50% US. Et Varenne Global, un fonds qui est beaucoup plus punchy, mais qui embarque quand même les autres stratégies si jamais les marchés étaient plus compliqués demain.
Très bien, merci pour cette réponse. Je vais juste rebondir parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant qu'on ne cesse de dire à nos clients, qu'on ne cesse d'expliquer à nos clients et que des fois on a du mal à expliquer. On ne trouve pas les justes mots et les bons mots. Construire un portefeuille, c'est prendre des fonds et des titres ou d'autres instruments et les mettre ensemble. Et c'est l'ensemble qui va bien. L'ensemble est bon et l'ensemble est satisfaisant. Même si à l'intérieur, vous avez un produit qui peut être extrêmement décevant et qui peut être extrêmement mauvais, eh ben, en fin de compte, il a permis cette construction du portefeuille. Donc l'image qu'on prend, nous, c'est de dire, voilà, le pain, c'est quelque chose de très bon, qu'on ait beaucoup apprécié. Dans le pain, il y a de l'eau, il y a du sel, il y a de la levure et il y a de la farine. Et vous pouvez consommer les quatre éléments de manière séparée, mais vous allez être vraiment déçu si vous mangez de la levure tout seul. Vraiment, vraiment déçu. Mais en la mélangeant à d'autres produits, on arrive à quelque chose qui peut être extrêmement satisfaisant. Et avec les fonds, c'est comme ça. Et dans nos allocations, on a toujours des fonds qui fonctionnent et des fonds qui ne fonctionnent pas. Et c'est justement parce qu'on a pris les deux que la rentabilité peut être cohérente. Et après, il y a autre chose que je dis et je rebondis là-dessus, c'est que quand des gens placent de l'argent, on sait qu'ils peuvent placer tout l'argent en un seul moment, puisque l'argent peut arriver d'un seul moment par un héritage, une vente d'entreprise, une vente d'appartement, mais on sait aussi qu'ils ne retirent pas tout l'argent en un seul moment. Donc, on n'a pas besoin que les performances soient au rendez-vous pour tous les fonds en même temps. Voilà, on peut très bien avoir un fonds en avance, un fonds en retard, et ma phrase préférée, c'est que quand vous avez besoin d'argent, on punit les meilleurs, on sort là où il y a de la plus-value. Comme ça, elle est définitivement acquise. Merci, merci beaucoup, David, pour tous ces mots. Je
Merci
vous laisse
Bernard.
pardon, 30 secondes pour conclure et après, je passe à l'édito et on va essayer de regagner un petit peu le temps.
Non, non, bah, une conclusion rapide. Je pense qu'on a dit les éléments principaux, mais voilà, investir chez Varenne, c'est investir dans une société de gestion indépendante française qui a prouvé, je pense, qu'elle était capable de sélectionner de bonnes entreprises de qualité. Extrêmement important cet assemblage de technicité aujourd'hui entre le fondamental et la partie plus algorithmique qui apporte beaucoup de valeur dans un environnement, dans un monde qui a beaucoup changé, on l'a dit et redit, et des produits différents que vous pouvez choisir en fonction de votre appétence au risque ou de votre horizon temporel ou de votre capacité, on l'a pas dit aussi, mais c'est important, d'investir en plusieurs fois. Plus vous allez sur un fonds dynamique, plus je pense qu'il peut être intéressant d'investir en plusieurs fois. Voilà, merci, merci Bernard en tout cas pour ce moment.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous restez avec nous, c'est maintenant le moment de l'édito. Un budget pour le meilleur ou pour le pire. La dernière fois, je parlais de l'année Trump pour le meilleur ou le pire. Je recommence cette fois, nous avons un budget pour le meilleur et le pire. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est le budget de la honte. Nous avions le choix entre la honte et la guerre, et une fois de plus, nous avons choisi la honte et nous aurons la guerre. Les impôts, c'est assez simple. On rajoute une couche. Si ce n'est pas deux aux riches, ça va marcher un peu, et puis ils vont un peu plus partir, et on ne saura plus comment revenir en arrière. On rajoute une petite couche à l'immobilier, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, et que le secteur n'était pas à la peine, et on dézingue les auto-entrepreneurs et leurs clients en baissant le seuil d'application de la TVA. En même temps que j'écris, j'entends le gouvernement reculer et dire que c'est pas sûr, c'est pas tout de suite, et qui va voir. Et bien sûr qu'il va reculer. Et reculer, ça veut dire dérive budgétaire. En clair, plus de déficit. On va ajouter une petite augmentation des prestations non déclarées pour éviter les effets de seuil. Je m'explique, c'est tout simplement quelqu'un, un petit plombier ou quelqu'un qui fait des travaux qui ne va pas vouloir déplacer. Il va dire à son dernier client, paye-moi au black, ce sera plus simple comme ça. Ou alors, moi, je suis obligé de facturer de la TVA, ça ne m'arrange pas, toi, ça ne va pas t'arranger. Et là, bah, l'État, au lieu d'avoir un petit peu, bah, il n'aura rien. Et ça va nous faire une autre dérive. Comme l'impôt des riches voit moins bien rentrer une troisième dérive en perspective, et j'arrête là pour ne pas vous saouler. Les dépenses de la sécurité sociale et des retraites, ça va partir en sucette, c'est déjà prévu, on ne cesse de le dire, avec des chiffres et des courbes à l'appui, et contrairement à nos politiques, les mathématiques ne mentent pas. Maintenant, on passe du côté des dépenses. Soit le gouvernement ne tient pas ses engagements, et on prend une dérive en plus, c'est ce qui va arriver, mais laissons-leur le bénéfice du doute. S'ils tiennent parole, la baisse des dépenses publiques va engendrer une baisse de la croissance, et comme elle a été calée à 0,9, ça paraît bas, mais déjà, c'est pas gagné. De plus, cet argent, même si beaucoup était gaspillé, il y avait quand même des emplois, du travail et de la valeur créée. Donc, on va encore perdre en retirant cet argent. Alors là, je mets un tout petit bémol. J'ai écouté Marc Toiti ce week-end qui dit, pas du tout, les dépenses publiques vont augmenter de 40 milliards. Alors, bon, on connaît Marc. Marc, il est venu longtemps avec nous à la radio. Des fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Des fois, il s'emballe, mais il dit rarement de bêtises et il amène toujours des chiffres pour expliquer ce qu'il dit. Bref, ce budget est un budget de la reddition et de la honte. Il nous fera tenir quelques mois jusqu'à prochaines élections législatives ou jusqu'au prochain budget ou jusqu'à une intervention musclée de l'Europe. Il y a un événement qui pourrait changer la donne à court terme. Absolument pas sur le long terme, mais sur une échelle courte, oui. Trump parvient à faire signer un accord de paix à l'Ukraine et la Russie, c'est pas impossible, et un vent d'optimisme souffle sur l'Europe. Fin des sanctions, énergie peu chère, manne de la reconstruction, on finira par être déçu car ce sera moins que prévu, mais ça donnera une dynamique qui dopera la consommation, l'envie de créer et d'investir, et là, on pourrait éviter une dérive budgétaire. C'est pas gros comme chance, c'est mince, mais ça pourrait marcher. David, comme toujours, c'est vous qui allez rebondir, et j'aimerais bien vous entendre rebondir sur ce que vous voulez, bien sûr, mais en premier lieu, sur une intervention musclée de l'Europe à un moment ou à un autre, pas si loin que ça, vous semble-t-elle possible, probable, ou alors non, c'est de la science-fiction?
Alors, tout dépend, Bernard, ce que vous appelez par intervention.
Musclé.
Musclé,
Musclé. Ils tapent sur la table et ils disent maintenant c'est comme ça.
si c'est vraiment musclé, ça se passe comme en Grèce. Et on voit débarquer le FMI avec des petites mallettes noires qui commencent à nous expliquer ce qu'il faut faire à nos retraites, à nos dépenses des fonctionnaires, etc., etc. Je pense que la route est longue pour en arriver là, si on est réaliste. Je pense qu'il y aura beaucoup de diplomatie et de pression diplomatique avant d'arriver à une action forte, tout simplement de par le statut qu'occupe la France au sein de l'Europe. Voilà. Donc, on va bénéficier un petit peu de la note du bon élève, de la note de gueule, comme on dit, hein. Celui qui a été le bon élève de l'Europe pendant très longtemps, fervent moteur de la construction européenne, etc. Donc, on va bénéficier de ça. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, les messages se feront sentir et ils se sont déjà fait sentir par le passé. C'est pas pour rien qu'on est sur des budgets où on essaye de rentrer, de réduire un petit peu les déficits par rapport à ce dans quoi ils avaient filé. Donc, si on est déjà en train d'essayer de construire un budget qui soit en déficit de 5,4 au lieu de 6, si on est déjà engagé dans un processus de réduction de déficit, avec succès ou pas, on le verra. Mais si on s'engage dans cette voie-là et si on a eu autant de problèmes avec les budgets, c'est bien que déjà le message était passé gentiment mais fermement que ça ne pouvait pas durer trop trop longtemps cette histoire de déficit. Et c'est vrai que on a eu une accumulation de situations exceptionnelles. Hein, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu le Covid, il y a eu derrière l'inflation, le bouclier d'inflation pour couvrir tout le monde, etc. Mais vous savez ce qu'on dit en comptabilité, c'est de l'exceptionnel qui se répète chaque année, ça devient du récurrent. Voilà. Et je crois que c'est ça un petit peu le message qui a été passé, qui a été entendu. Alors, assez ou pas assez, ça. On peut en débattre des heures et des heures, mais voilà. Donc, je pense que avant une intervention musclée de l'Union européenne, il y aura d'abord beaucoup de pression, ferme mais amicale, et je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on évoluera.
Ok, on va revenir après sur les autres sujets et là on va donner la parole à Maëlle. Bonsoir, bonsoir Maëlle.
Bonsoir.
Allez, donc vous Maëlle, comme vous êtes moins économiste, moins financier, on va aller sur quelque chose de plus simple. Allez, je vais vous demander, avec votre expérience acquise et votre savoir, deux questions. Les 5,40 de déficit à la fin de l'année, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Et éventuellement pourquoi? Et les 0,9% de croissance de la France, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? Donc la question, ce n'est pas une question piège. Moi, je vous ai déjà dit que je n'y croyais pas. Et si vous lisez, si vous écoutez Marc Toiti le week-end, alors lui, il dit, ce n'est pas 5-4, c'est au minimum 6 qu'il y aura de déficit. Et vous, vous en pensez quoi?
Bon. Alors, c'est pas de l'économie là, c'est plus de la politique. Hein. Je vais répondre à cette question.
La politique, ça va être la manière dont vous allez le dire. Et les chiffres,
Allez,
on va
bah alors,
rester dans l'économie.
vous inquiétez pas. Moi, j'y crois pas non plus aux 5,40. C'est des mesurettes. On fait deux pas en avant, trois pas en arrière. Donc, on n'y arrivera pas. Hein. Aujourd'hui, le budget, il est honteux pour reprendre un peu votre propos. Il se passe rien. On n'a rien fait du tout. Là, pour le coup, Bayrou, il essaye de se maintenir et de maintenir son gouvernement. Donc, il essaye de contenter tout le monde, et en contentant tout le monde, on n'y arrive pas. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'économies sur les dépenses. Et je suis d'accord avec vous, hein, à force de taper sur les riches, ils sont tous en train de partir. Et là, je peux vous le dire, parce que je suis énormément sollicité pour des clients qui se renseignent de plus en plus. Alors, ils n'ont pas encore franchi le pas, mais ils se renseignent de plus en plus. Du coup, pour tenir les 5,40, j'y crois pas du tout. Les 0,9, c'est déjà tellement mauvais, que je vais laisser, au moins le bénéfice du doute au gouvernement. J'espère qu'on fera au moins 0,9 parce que c'est déjà très très mauvais. Mais 0,9, ça permet pas de rester à 5,40 pour moi.
Ok. Allez, même question pour David de Virba. Donc, vous, ces 5,40, est-ce que vous y croyez? Et ces 0,9, est-ce que vous y croyez? Et puis, si vous avez un petit peu de développement à nous expliquer pourquoi oui ou pourquoi non, ou un peu d'information par rapport à la recherche ou à ce que vous voyez au sein de Rennes, on est tout oui, David.
Oui, bah, je vais pas paraphraser ce qui a été dit par mes camarades, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on partage vos préoccupations, Bernard, et celles qui ont été très bien dites dans l'édito. Peut-être deux, trois points, encore une fois, pour pas répéter ce qui a été dit. On a du mal à y croire aux 5,4, même si Moscovici se bat et essaye de faire du mieux qu'il peut pour essayer de donner un petit peu confiance. En tout cas, il y a un point d'accord, c'est que si jamais les entreprises et les consommateurs voient les impôts continuer à monter, personne ne voudra installer son entreprise ou sa start-up ou acheter un appartement, acheter de l'immobilier en France. Donc, Maël est mieux placé que nous pour voir ce qui se passe, mais c'est sûr que on est dans une situation où ça donne un peu aux gens envie de partir et on l'entend beaucoup autour de nous. Il y a l'énergie aussi qui pose problème. Si on part plutôt de l'analyse Varenne, qui est au plus haut depuis 2 ans, qui pose de vrais problèmes. Donc il y a vraiment des sujets qui nous inquiètent. Peut-être deux facteurs qui sont peut-être un peu plus positifs pour reprendre la question initiale sur l'Europe. D'abord le fait que les entreprises en France sont connues pour être de bonnes entreprises exportatrices, donc peut-être que ça permettra de donner un petit souffle si on s'éloigne un peu de la politique et de ce qui se passe en France. Et le deuxième élément, encore une fois, si on prend un peu plus de hauteur et qu'on reste au niveau de l'Europe, c'est qu'il y a une nouveauté quand même par rapport aux crises précédentes, et là on est plutôt dans la partie économique. C'est que la Banque Centrale Européenne, la BCE, a quand même plus d'instruments qu'avant, si jamais on arrive dans une situation de crise. Donc ça, c'est pour avoir un petit message positif. Il y a évidemment les marges qu'on connaît sur les taux. Il y a ce qu'on appelle l'OMT, sans être trop technique, qui permet facilement à la BCE d'acheter des bons d'État. Donc voilà, c'est pas réjouissant. Je partage ce qu'a dit Maël pour répondre plus directement à la question. Les 0,9, on espère qu'on arrivera à les tenir, mais c'est pas exceptionnel. Les 5,4, on a un peu plus de mal à y croire. Mais il y a quelques petits éléments par-ci par-là positifs, même si au niveau franco-français, c'est très compliqué.
Alors, David, cette fois-ci, David Calfon, on va un petit peu changer la question, bien que vous allez pouvoir nous donner votre avis sur les 5,40 et les 0,90. Il y a autre chose qui m'inquiète, moi, c'est de toute façon, encore 1 an, encore 2 ans, encore 3 ans, encore 4 ans, il va falloir drastiquement couper dans les dépenses en France, drastiquement couper dans les dépenses en France. Il n'y a que trois puits de dépenses sans fond. C'est la sécurité sociale, les retraites et les subventions aux entreprises qui sont là pour faire un petit peu le travail inverse de quand il y a trop d'impôts qui est pris. Bah, par derrière, on vient redonner un petit peu de subventions et de choses comme ça pour un petit peu calmer le jeu. Et on sait que même si les charges sociales sont très élevées en France, il y a énormément d'aides sur les charges sociales ou de dispenses sur les charges sociales, ce qui vient en fin de compte réduire leur poids réel. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les paroles des patrons. C'est-à-dire, tout le monde a entendu Bernard Arnault qui a parlé. Bon, il n'a pas dit qu'il allait partir, mais délocaliser. En plus, bon, je vais vous dire quelque chose. Bernard Arnault, il ne partira pas. En tout cas, il ne partira pas aux États-Unis, comme il l'a dit, parce que en France, quand l'argent de ces entreprises qui produisent du luxe, les dividendes remontent vers sa holding, il ne paye pas d'impôts. S'il était aux États-Unis, ce serait soumis à impôts. Mais par contre, il pourrait délocaliser des fabrications en allant dire que au Texas, il y a des ouvriers dans la sellerie magnifique, en allant dire que là et là, là. Donc, on a quand même des petits mots et on sent que ça pourrait le faire. On a exactement la même chose chez le patron de Total. Il dit que bien sûr, il n'enlèvera pas son siège le siège social de la France, mais en revanche, il pourrait demander une cotation à un principal à New York. Parce que ça ferait sans doute monter le titre, ça amènerait peut-être plus de capacité de financement, et il a sans doute raison. Dans les entreprises de technologique, on ne le dit pas, mais toutes nos startups qui réussissent vraiment et qui se développent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même, elles vont se coter à New York. Et pourquoi elles vont se coter à New York? Parce qu'il y a de la fluidité, de la capacité à récupérer des capitaux sur les marchés actions. Et ça m'inquiète. Et tout à l'heure, quand vous disiez, il y aura peut-être un jour une réponse musclée, mais elle viendra pas tout de suite et il faudra un certain temps. La question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce que les patrons ne se disent pas comme vous, ça va venir, ça prendra un certain temps et moins on sera exposé à ce moment-là, mieux ce sera. Voilà, c'est très dense. Répondez-nous juste très vite sur les chiffres 5, 40 et 0,9. Et après, on passe à cette question, si vous le voulez bien, David.
Écoutez, sur l'objectif de déficit, effectivement, y a assez peu de chances qu'on l'atteigne, puisque, comme vous l'avez très bien dit, il y a tous les sujets sur l'augmentation d'impôts, je pense, voilà, ils ont un peu sous-estimé la mobilité des gens et la capacité à bouger, à réagir ou à se réorganiser. Donc, de ce côté-là, voilà, moi je pense que l'objectif de 5,40, il ne sera pas atteint. Maintenant, est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire que tant qu'on est dans un schéma de réduction du déficit, on pourra s'acheter du temps en disant, bon, voilà, on n'a pas fait 5,4, mais on a fait 5,6, donc c'est quand même mieux que l'année dernière. Et l'année prochaine, on ne va pas faire 5,4, on va faire 5, etc., etc. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas trop de sujets, même si effectivement on risque d'être déçu. Sur l'autre point, sur le fait, quoi, le manque d'attractivité, comme on dit, de la place financière européenne, c'est un fait. C'est un fait et malheureusement, on est en train de subir un petit peu, je veux dire, c'est un constat. Voilà, les flux sont aux États-Unis, la liquidité est aux États-Unis, et on en reparlera. Mais lorsque l'on voit tous les flux qui sont dirigés vers la gestion passive, donc que ce soit en ETF S&P 500, je pense que je vais me tromper, donc je vais pas citer le chiffre, mais je vous encourage à aller regarder la taille de l'ETF S&P 500 de Vanguard. Je crois que on est sur maintenant des centaines de milliards de dollars, ce qui est assez hallucinant. Et quand on pense également à la manière dont sont faits les indices, vous l'avez très justement dit, Bernard, lorsque vous parliez des fonds Varenne, en disant voilà, l'indice MSCI Monde, bah, c'est déjà une grosse partie d'Amérique du Nord, et donc c'est pas si diversifié que ça. Voilà, tout dirige pour le moment. Tout dirige les flux vers les États-Unis. Alors après, que les chefs d'entreprise aillent chercher la liquidité là où elle se trouve, malheureusement, ça ne serait pas surprenant.
Et là, il manque un petit bout de conclusion. Et là, il manque un
Sûr.
petit bout de conclusion. Donc, dans quel état on va se retrouver? Parce que vous avez bien répondu sur la partie du financement. Donc, bon, moi aussi, je pense qu'il va y aller, hein, le patron de Total. Et en plus, bon, le traitement des hydrocarbures et le point de vue d'un homme des hydrocarbures est tellement différent en Europe et en France qu'aux États-Unis que voilà, il va falloir le faire. Mais après, sur la délocalisation de la production, parce que
Ah, alors,
autant
c'est ce que demande.
dans ce système de holding, et là, il faut vraiment le dire, bon, c'est un sujet un peu technique, mais dans ce système de holding, nos ultra-riches n'ont pas vraiment intérêt à partir. En tout cas, nos ultra-riches qui produisent de la valeur. C'est-à-dire que ceux qu'on voit à l'étranger, et je ne sais pas pour vous, Maël, mais vous nous le direz en 30 secondes tout à l'heure, ceux qui viennent ouvrir des contrats d'assurance vie ou qui se renseignent par rapport aux compétences que vous avez chez Wellings pour les aiguiller, ceux qui partent, c'est souvent ceux qui ont vendu. C'est-à-dire ceux qui ont vendu partent pour ne pas être soumis à la pression fiscale. Mais ceux qui, en France, produisent et créent de la valeur, avec ce système de holding, en règle générale, il reste le temps de la production parce qu'on est un des rares pays qui ne fiscalise pas cette transmission vers la holding. Donc, pour les auditeurs, pour que ce soit simple, les gens qui gagnent énormément plus d'argent que ce dont ils ont besoin récupèrent l'argent dont ils ont besoin pour vivre et là-dessus, ils payent des impôts et là-dessus, ils payent les impôts sur le revenu qui sont assez chers en France. Et ensuite, par le biais des holdings, les dividendes remontent dans la holding. La holding est un véhicule d'investissement qui servira à nourrir la personne ou la famille une fois que la société qui crée la valeur industrielle ou commerciale aura été vendue. Donc c'est plutôt sur la délocalisation de la production. Est-ce que vous pensez que ce coût français qui continue à augmenter, puisque bon, on avait les charges sociales, mais maintenant on a la couche des impôts, peut provoquer un mouvement de délocalisation, en sachant aussi qu'en France, malgré nos 7% de chômage et malgré je ne sais plus combien de RSA, on a du mal à recruter.
Alors là-dessus, la relocalisation de la production aux États-Unis, c'est un objectif extrêmement bien déclaré par Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il donne tous ces histoires de droits douaniers et de taxes à l'importation. C'est de dire, plutôt que de produire à l'extérieur et après d'exporter vers les États-Unis, là, vous allez être taxé. Venez chez moi, produisez localement, et là vous êtes considéré comme un bien local, donc il n'y a pas de taxe. Donc, et il le dit, hein, c'est pour créer des emplois chez lui, pour créer une activité économique chez lui, etc. Donc là-dessus, je pense que cette stratégie va marcher dans une certaine mesure. Alors, industrie par industrie, et effectivement, oui, c'est quelque chose dont on va souffrir en Europe.
Alors, Mel, on va terminer avec vous. Donc, quelle est la typologie de ces gens qui, tout à l'heure, vous nous avez dit, il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui se renseignent. Ils ne partent pas encore, mais ils se renseignent. On est, comme je l'ai dit, dans des gens qui ne produisent plus en France et qui vendent des entreprises ou qui ont des holdings non productives, ou alors on est dans des gens qui continuent à produire en France et qui regardent pour partir en laissant leur outil de production. Voilà, donc dites-nous un petit peu ce que vous voyez, ce que vous constatez par rapport à une typologie, si tant est que vous constatez réellement une typologie marquée.
Il y a tout, hein. Franchement, il y a tout. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec vous, hein, pour dire que c'est ceux qui ont réalisé qui partent. On a des chefs d'entreprise qui ont leur outil de production, qui sont toujours en activité, qui, à titre personnel, sortent leurs actifs de France. Donc, ils restent résidents fiscaux français, mais j'ai remarqué qu'ils évacuaient leurs actifs de France.
C'est un sujet différent. Hein. Ça, c'est un sujet de peur et c'est un sujet qui est complètement différent. Alors ça, on le voit beaucoup dans nos cabinets où les gens vont ouvrir maintenant des contrats ailleurs et ils se disent, moi, il ne me restera plus qu'à passer la frontière et tout sera déjà dehors, quoi.
Alors oui et non, hein, parce que les clients très avertis sont multiconseillers, c'est pas ils ont mis un petit peu d'argent à l'étranger. C'est pas forcément qu'au Luxembourg, hein, attention, je ne pratique pas pour ma paroisse. C'est également des clients qui ont des capitaux en Suisse et qui ont commencé à alimenter sérieusement les capitaux en Suisse. Donc ils vident ce qu'ils ont en France et ils le sortent dans d'autres pays. Ce n'est pas tous les clients, mais on en voit quand même de cette typologie de clients. Et puis vous aviez cité Bernard Arnault et le patron de Total. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intervention du patron de Michelin. C'était hyper instructif. Hein. Lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que le siège social reste en France, que c'est 10 fois plus rentable
d'avoir des employés dans les autres pays. Un employé en Thaïlande, il lui disait que pour une base 100, ça lui coûte 101. Un employé avec les charges, un employé en France, pour une base 100, ça lui coûte 191. Donc, ils sont pas idiots, hein, ces chefs d'entreprise. C'est qu'ils vont garder l'outil de production, ils ferment un peu d'usines en France, mais ils vont favoriser le développement dans d'autres pays. Ça, c'est de la main-d'œuvre, c'est de la richesse qui disparaît. Alors, le patron, il va rester en France, certes. Le siège social va rester en France. Mais toute la production, elle va se faire à l'étranger. Et c'est un peu ça qui nous fait peur. Bernard Arnault, il a dit qu'il partirait pas.
Ben
Il va
bon.
rester en France. Et peut-être pour les raisons que vous avez citées avec sa holding. Je pense pas. Moi, je pense que c'est plus le Made in France qui lui incombe. Il représente la France, donc il peut pas se permettre de partir. Néanmoins, je suis d'accord avec vous. Hein, il y a une partie de la production qui va se délocaliser. Et je pense que c'est plus ça le risque qu'on va rencontrer aujourd'hui. C'est que la richesse, elle va plus se faire en France. Moi, ce qui me fait beaucoup sourire, c'est aujourd'hui, cette semaine-là, il y a le sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Moi, ça me fait quand même beaucoup rigoler, parce que les Français, c'est nous qui avons créé l'intelligence artificielle, c'est nous qui sommes à la base de l'intelligence artificielle. On n'arrête pas de dire c'est les Français, c'est les Français, mais ce n'est pas des Français en France, hein. Ce sont que des Français qui sont aux États-Unis, qui ont créé l'intelligence artificielle. Bah, c'est un peu ça, en conclusion, le symptôme que j'observe, c'est qu'on est très bon, mais on est très bon à l'extérieur, on n'est pas bon ici. Et ceux qui sont bons ici, ils vont partir à l'extérieur.
Un petit peu comme Léon Marchand, quoi.
Bah, c'est un peu ça, c'est
Voilà.
exactement ça. Ils représentent la France, mais ils n'y habitent pas, quoi.
OK. Alors, David Calfon, je vous laisse conclure en 30 secondes. Il y a une unanimité sur les chiffres, personne n'y croit. Et ensuite, vous démarrez sur le point marché.
Oui, écoutez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter sur ces histoires de déficit. Maintenant, je rappellerai juste que même avec du déficit et même avec une croissance atone, on peut survivre. Je prendrai l'exemple du Japon, qui a passé des années avec un énorme déficit en pourcentage de son PIB et également une croissance totalement atone. Et finalement, vous voyez, 30 ans après, il y a des signes de vie de ce côté-là. Donc, un peu d'espoir, peut-être. Sans plus attendre, je commence avec donc ça, la chronique des marchés. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique avec un début d'année qui est, comme souvent, un bel exemple de consensus pris à revers. Alors, souvenez-vous, hein, en décembre dernier, il n'y en avait que pour les actions américaines. Il suffisait, entre guillemets, d'acheter le TFSNP 500, tout le reste n'était que littérature. Et lors de notre dernière émission, déjà, je vous rappelais à quel point il fallait se méfier du consensus. Eh bien, nous y sommes. Depuis le début de l'année, ce sont les actions européennes qui caracolent en tête des classements, avec un Eurostoxx 50 qui affiche une performance de plus de 9%, alors que les actions américaines se contentent à peine du tiers, avec une modeste progression de 2,5%. Alors oui, bien sûr. Il ne s'agit que de 5 semaines de bourse et l'année est encore longue. Mais quand même, je pense que cela vaut la peine de le souligner. Autre rebond à signaler, celui de la Chine, en hausse de 6% depuis le début de l'année, au moment même où tout le monde, moi le premier, avait tendance à jeter l'eau du bain des marchés émergents avec le bébé chinois. Alors je ne peux ici que réitérer, hein, mes réticences à investir sur le marché chinois, hein, du fait des énormes problèmes de gouvernance auquel ce pays nous confronte en tant qu'actionnaire minoritaire, mais je vous dois une certaine honnêteté intellectuelle, dont acte, rebond de la Chine. Alors, si on revient à l'Europe et à la zone euro, pourquoi ce rebond des actions européennes et cette sous-performance relative des actions américaines? Encore et toujours, il nous faut regarder du côté des banques centrales. En zone euro, la Banque centrale européenne baisse ses taux et nous dit qu'elle va continuer à le faire. Au vu des prévisions de croissance économique, elle aurait en effet bien tort de ne pas le faire. Du côté américain, que dire? Nous avons un nouveau président dont les gesticulations quotidiennes ne laissent que très très peu de visibilité aux membres de la Fed sur la politique monétaire à mener. Pas plus tard que vendredi dernier, Donald Trump a promis de taxer de 25% l'acier et l'aluminium, d'où qu'ils viennent, d'imposer des droits de douane réciproques au monde entier sur le principe de tu me taxes, je te taxe, ou plutôt de œil pour œil, dent pour dent. Cet outil de la guerre commerciale a plusieurs effets. D'un côté, bien entendu, il peut servir à obtenir de meilleurs accords commerciaux. De l'autre, il peut se révéler une source de financement pour le projet de baisse d'impôts de Trump. Mais le plus important est que cette guerre commerciale est génératrice d'inflation. Et les ménages américains ne s'y trompent pas avec une forte hausse des anticipations d'inflation publiées vendredi. Les chiffres de l'emploi, publiés en fin de semaine dernière, semblent confirmer également le retour de l'inflation. Le chômage est en baisse aux États-Unis à 4% contre 4,1% attendu, mais surtout, les salaires repartent à la hausse avec une progression de 4,1% en glissement annuel contre 3,8% attendu et 3,9% en décembre. Dans ce contexte, les investisseurs n'intègrent plus qu'une seule baisse des taux de la Fed en 2025, maximum 2, alors qu'en Europe, on en attend plutôt 3 ou 4. D'après certains économistes, l'économie américaine devrait ralentir et donc permettre à la Fed de baisser ses taux. Mais si on peut s'interroger 2 minutes sur l'économie américaine, si on parle de ralentissement économique et si on voit que les sources de l'inflation sont liées à des sujets politiques et non pas à des sujets de surchauffe de l'activité, est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train de se diriger vers une stagflation aux États-Unis? Personne ne prononce ce gros mot pour le moment, mais est-ce que finalement, la grosse surprise de l'année 2025, est-ce que ça ne serait pas celui-là, celui-ci?
Alors, et juste avant que je rebondisse, et merci de nous qualifier exactement ce que c'est la stagflation.
La stagflation, c'est une absence de croissance avec une inflation. Donc, comme on le sait, normalement, l'inflation, elle vient d'une surchauffe de l'activité économique. Pardon. Et donc, normalement, à chaque fois qu'on a de l'inflation, c'est qu'on a une forte croissance économique. La stagflation, c'est quand on a une inflation, mais que malheureusement, on n'a pas de croissance économique.
Alors, et moi, je vais rebondir sur le sujet dont on parle. Fallait venir sur les actions européennes, fallait pas les lâcher, fallait pas les faire. Et après, on verra David. Mais avant, comme Maël doit être présent au sommet de l'IA, je crois qu'il peut rester encore 2 minutes avec nous. Juste Maël, on va vous laisser rebondir sur ce qu'a dit, choisir le point sur lequel vous voulez rebondir. Dans le point marché de David Calfon, et puis après je reviendrai moi à un rebond un peu plus construit.
Bonjour, merci. Avant de partir, je ferai le lien avec votre intro, Bernard, sur les gesticulations dans tous les sens de Donald Trump. Moi, je suis un peu d'accord. Il y a des effets d'annonce de partout. On voit que les bourses, elles sont suspendues à ces décisions. Alors, du coup, est-ce que ça va nous. Est-ce que tout ça, c'est fait pour camoufler une stagflation? Ça me rappelle des vieux souvenirs d'école, ça. Vous voyez, Bernard, j'ai fait de l'économie un peu à l'école aussi. Je ne sais pas. Pour le coup, là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fait bouger les choses, en bien ou en pas bien, mais ça fait bouger énormément les choses. Au niveau des marchés en Europe, c'est vrai que depuis le début de l'année, ça fonctionne bien. Mais moi, je pense aussi que c'est tiré par toutes les gesticulations de Donald Trump. C'est ce qui a un impact sur les bourses européennes. Donc, si demain, il remet les droits de douane, je suis persuadé que tout ce qu'on a gagné depuis le début de l'année, on va le reperdre. Mais enfin bon, ça. J'espère qu'on ne le saura jamais.
Ok, merci. Alors, je vais revenir. Vous disiez, il faut se méfier du consensus, on était tous d'accord là-dessus. Donc, maintenant qu'on a passé un petit peu plus qu'un mois, ben, on savait ce qu'il fallait acheter le 1er janvier, ce qu'il fallait moins acheter, ce qu'il fallait vendre. C'est ce que j'ai dit à une cliente quand elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait d'NVIDIA quand ça a commencé à baisser. Je lui ai dit, si vous aviez décidé de vendre il y a 15 jours, vous auriez gagné tant. Et voilà. Mais revenons un petit peu au rôle de chacun. D'un côté, vous avez des gérants de fonds. Quand vous avez un gérant de fonds européen, lui, à la limite, il s'en fout. Il achète de l'Europe et puis c'est tout, c'est son métier. Donc, il achète de l'Europe, ça baisse, ça monte. Vous avez le gérant de fonds américain aussi. En vérité, il y a deux personnages qui sont pas très à l'aise. C'est-à-dire que vous avez le gérant de fonds monde qui affirme qu'il n'est pas esclave de la pondération. Et donc, lui, il avait le droit de vendre de l'Amérique et d'acheter de l'Europe. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? On n'en sait rien. Et puis derrière, vous avez l'épargnant. Et l'épargnant, il n'a pas à faire de rodéo. Il n'a pas à dire, OK, il va probablement y avoir un rattrapage parce que ça a été injustement sanctionné. Donc, je vends, j'achète, je vends, j'achète. L'épargnant censé, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de définir un objectif en termes de temps. Il essaye de définir un objectif en termes de temps. Il dit, voilà, moi aujourd'hui, J'ai tant mes enfants, ils ont tel âge et tel âge. Je suppose que dans 4-5 ans, je vais avoir des grosses dépenses pour leurs études et que ces grosses dépenses, elles vont durer 4-5 ans. Et là, par rapport aux moyens qu'il a, par rapport à l'argent qu'il a, ben, il s'oriente en se disant 4-5 ans, c'est peut-être un peu juste pour mettre tout en action, donc je ne peux pas me permettre ça, donc je fais ça, je fais ça. Et après, il est sur des autoroutes. Après, il est sur des autoroutes et il doit avoir bien suivi ses autoroutes. Changer d'autoroute, c'est-à-dire sortir d'une autoroute et prendre des petits chemins pour en rejoindre une autre, c'est bien, mais ça veut dire qu'on s'est trompé. L'idéal, c'est de rester sur son autoroute et c'est-à-dire que celui qui avait 40 ans il y a 20 ans et qui s'est dit, moi, il faut que je prépare ma retraite, j'ai de l'argent, je le mets sur le marché américain, il n'avait pas à sortir de l'autoroute, il était tranquillement sur son autoroute. Alors, bien sûr qu'à un moment, il y a eu des accidents. À un moment, il y a même des avions qui ont atterri sur l'autoroute, tellement ça pouvait faire peur. Mais en tout cas, en restant sur cette autoroute, c'était l'autoroute de la confiance, l'autoroute de la croissance. Et aujourd'hui, ben, ça peut être certains l'autoroute de la richesse si l'investissement a été fait. Et donc, le rôle d'un épargnant, c'est ça. Le rôle d'un gestionnaire de patrimoine, donc quelqu'un comme moi, c'est de lui dire, voilà les autoroutes qu'on prend et de lui dire, bon, à un moment, on prend plusieurs autoroutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on en prend plusieurs fois, et à un moment, il faut bifurquer. Donc maintenant, ma question, oui, il fallait acheter le 1er janvier de la Chine, oui, il fallait vendre un peu d'Amérique pour acheter de l'Europe, mais la vraie question, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est sur l'autoroute américaine, est-ce que vous pensez qu'il doit sortir? Quelqu'un qui doit bifurquer pour une partie et revenir sur l'autoroute européenne? Est-ce que cette hausse d'un mois de la Chine justifie un changement d'autoroute? Donc, changement d'autoroute, je vais le dire dans un langage plus commun pour nous, une réallocation d'actifs long terme, ou est-ce que c'est juste des propos pour le gestionnaire du fonds Action Monde de Sanso ou de 1000 autres sociétés de gestion, et lui, il a intérêt à se bouger et aller chercher au jour le jour un peu de sous pour ses clients s'il veut les garder et s'il veut figurer parmi les meilleurs. Donc, une réponse courte là-dessus, et après David Verdier, il enchaîne avec une deuxième réponse qui pourrait être différente de la vôtre. Ce serait bien, d'ailleurs, si on n'était pas consensuel.
Alors, mon propos était beaucoup plus tourné vers nos auditeurs pour leur recommander, comme vous le savez, je suis toujours un adepte de la diversification. Et pourquoi je me permets de réagir là en disant, oui, il suffisait d'investir sur un ETF S&P 500, parce que, en fait, c'est un propos que j'ai entendu dans un transport en commun, c'était des jeunes d'une trentaine d'années. Et l'un disait à l'autre, de toutes les manières, pour tes finances, fais comme moi, tu mets tout sur un compte d'une banque en ligne, t'achètes l'ETF S&P 500, puis ça va tout seul. Et c'est juste à des gens qui seraient tentés par ce genre de stratégie d'investissement complètement mono-marché, de rappeler que un peu de diversification, c'est extrêmement nécessaire et que, il faut jamais tout mettre
Ben
sur le même
justement,
cheval.
on va reprendre ce jeune de 30 ans. Il a 30 ans, il est dans le bus. Il a globalement une échéance à 35 ans où il va avoir une retraite à financer. Et d'ailleurs, s'il peut partir un peu avant, même s'il n'aura pas atteint l'âge légal, s'il a suffisamment d'argent, peut-être qu'il pourra décider de partir avant. Il a bien entendu d'autres échéances. Hein. Si il a décidé de se marier, d'avoir des enfants, il aura des études à financer, des choses comme ça. Je vais reprendre sa phrase. Te casse pas la tête pour ta retraite. Mets un billet sur un ETF et t'as juste à attendre. Ça vous parle? Ça vous parle positivement? Ça vous parle négativement? Vous en pensez quoi?
Alors, l'investissement long terme, oui, ça me parle. Le côté mono-marché, parce qu'encore une fois, ce n'était pas un ETF, c'était tu achètes le S&P 500. Ça me dérange. Voilà, c'est juste ça. Je dis juste que un portefeuille, c'est bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, même si tous les marchés sont in fine assez corrélés les uns aux autres. Mais globalement, c'est bien d'avoir des actions américaines, c'est bien d'avoir des actions européennes. Encore une fois, si on vous reprenait ma chronique du mois de décembre dernier, je disais pas il faut sortir du marché américain. Je disais vous prenez vos plus-values et les plus-values que vous avez réalisées sur les marchés américains, vous les réinvestissez sur les actions européennes.
C'est ça,
Donc on est bien dans
punition.
cette logique, bien dans cette logique de diversification.
Donc, on punit les bons élèves en allant chercher la plus-value et on va investir sur les mauvais élèves. Alors, il y a Mehdi qui nous a rejoint et qui tout à l'heure nous parlera de l'OST, de comment elle se passe sur les fonds H2O. On parlera aussi un petit peu des résultats avec Mehdi parce que la dernière fois qu'ils sont venus, les résultats de l'année étaient pas bons du tout l'année dernière. Et là, il y a un beau rebond. Donc voilà, c'est exactement ce que disait David. On aurait pris quelqu'un qui avait fait des bons résultats, on les aurait mis chez eux, qui avaient été mauvais élèves, et en janvier, on avait une petite hausse. David Viasba, on revient sur ce sujet-là. Donc, trois strates. On a l'épargnant qui, lui, doit se concentrer sur des objectifs qui vont correspondre à sa vie et qu'il arrive à définir. On a le gérant à qui enfin, qui s'est auto-donné une instruction parce qu'il est gérant Europe ou gérant US, donc il n'a pas grand-chose à faire. Et on a ce gérant monde. Alors vous, justement, vous êtes gérant monde parce que le sous-jacent de vos fonds, ce sont des actions monde. Et est-ce que vous prenez comment on va dire, de larges libertés avec les indices, ou est-ce que vous restez pas trop loin des indices, et est-ce que vous bougez beaucoup? Tout à l'heure, on a parlé, vous m'avez dit que l'Amérique, c'était environ à 50%, c'est en dessous de l'indice. Mais est-ce que c'était aussi il y a 2 ans environ à 50%? Et est-ce que vous pensez que dans 2 ans, ce sera aussi à 50%? Ou est-ce que vous prenez beaucoup de liberté avec ces indices?
Alors, nous, chez Varenne, dans nos fonds, on est Europe et US. Donc, il n'y a pas d'autres marchés. Donc, on est en même temps sur les deux autoroutes pour reprendre l'image que vous donniez tout à l'heure. Ce n'est pas structurel. C'est-à-dire qu'on ne décide pas d'être, par définition, 50% Europe, 50% US. Mais il se trouve que si on prend une moyenne large depuis quelques années, on était environ 50% en Europe, 50% aux US. Au moment où on se parle, on est un peu moins exposé aux US. On est environ à 40% aux US et à 60% en Europe. Donc, en effet, si on compare à l'indice World, MSCI World par exemple, on est sous-exposé aux US par rapport à l'indice. Après, ça n'est absolument pas un choix de notre part en fonction d'une géographie. L'allocation géographique, elle va être mesurée ex post, et c'est juste une conséquence de notre capacité à trouver des entreprises dans tel ou tel endroit du monde. On a très peu d'entreprises dans le portefeuille, 30 à 35, c'est très concentré. Donc, on va pas envoyer nos filets à un moment en Europe ou aux US, parce qu'on pense que au mois de janvier 2025, il faut être exposé en Europe plutôt qu'aux US. On est des investisseurs long terme. On va regarder plein d'éléments, la décote, la qualité économique, j'en parlais. On va regarder les prévisions de croissance. On va regarder la trésorerie. On va regarder s'il y a des pressions vendeuses sur les titres. Et tous ces éléments-là vont nous conduire à sélectionner des entreprises plutôt en Europe ou plutôt aux US. Donc, c'est vraiment mesuré ex post. Après, on fera jamais de grand écart pour répondre à votre dernière question. C'est-à-dire on n'a jamais été, il y a très peu de chances qu'on soit à un moment 90% en Europe, 90% aux US. Voilà. Donc c'est marché développé. Et je rebondis sur, c'était pas la question que vous m'avez posée là, mais ce que vous disiez avant, je pense, et David l'a très bien dit, je pense qu'il y a certains marchés avec des très grandes autoroutes, l'Europe et les US, sur lesquels il faut rester investi sur du long terme. Il y a peut-être d'autres plus petites autoroutes sur des choses plus sans diversification. Je sais pas, des actions en Inde, des actions au Japon, en Chine, à certains moments sur lesquels il peut être intéressant de façon tactique d'être exposé, mais sur les grandes autoroutes que sont l'Europe et les États-Unis, je pense que de façon structurelle, il faut rester investi.
Très bien. Alors, bon, moi, je rejoins un petit peu ce que vous dites. Alors, cette fois-ci, je donne la vision du gestionnaire de patrimoine, et c'est un peu ce que disait David en fin d'année. Globalement, quand on fait appel à un gestionnaire de patrimoine qui lui-même va poser l'argent sur des fonds, c'est qu'on en a de l'argent. En tout cas, qu'on en a plus qu'on en dépense. Et si on en a plus qu'on en dépense, il reste une partie à placer. Et après, ma conviction en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est de dire: à un moment ou un autre, vous aurez besoin de cet argent, et si à un moment ou un autre, vous n'avez pas besoin de cet argent, d'autres l'hériteront. Et donc, on n'a pas besoin que tout monte en même temps. Donc, on n'a pas besoin de chercher le meilleur profit au meilleur moment. On a juste besoin de s'assurer que quel que soit le moment auquel on a besoin de retirer une partie de son argent, on a une partie qui peut être retirée avec des profits. Et donc, on n'est pas obligé, en vérité, de se couper un bras parce que j'ai besoin de 100 000 euros et je n'ai aucune ligne à 100 000 euros sur laquelle j'ai des profits. Et là, c'est catastrophique parce que là, on est obligé de perdre et en sortant, on inscrit la perte et la perte, on l'inscrit pour l'éternité. Quand bien même l'année d'après ou celle d'après, on reviendrait à gagner, ce serait un autre gain Et il n'y a pas de compensation comme ça future. Et donc, c'est ça. C'est d'être sur ces autoroutes, sur ces routes, et de toujours veiller à y avoir du profit. Il faut qu'il y ait toujours du profit. Si à un moment, ça traîne, voilà, bon, ben, OK, l'Europe, ça a fait 1 an, 2 ans, 3 ans de mauvais. Bon, je me rappelle la crise de 2000. C'était vraiment pas beau. 2000, c'était pas une bonne année. 2001, c'était pas une bonne année. 2002, c'était pas une bonne année. 2003, ça a hyper mal commencé et ça a hyper bien fini. Donc là, ça a remis du baume au cœur à tout le monde. Mais c'est à ça qu'il faut veiller, c'est avoir du profit. Et, allez, David Calfon, je vous redonne la parole et on fait une conclusion là-dessus. Vous vouliez dire quelque chose, David Viasma?
Je suis désolé, il faut que je vous quitte.
Ah,
Vraiment
ok.
désolé. Merci pour l'invitation.
Super, à très vite.
Au
Donc,
revoir.
David Calfon, je vous redonne la parole. On fait une rapide conclusion et ensuite c'est au tour de Mehdi Rajdi d'H2O où on va parler de l'OST.
Alors, en conclusion, moi, je referai juste un petit point sur le sujet de l'inflation et surtout de l'inflation aux États-Unis. Je pense que c'est ce qu'il faut regarder parce que ça va être vraiment déterminant de la performance des marchés cette année. Voilà, moi j'ai un doute sur cette inflation. Je pense qu'elle risque de nous poser beaucoup plus de problèmes que ce qui est anticipé par les marchés. Donc c'est sur ce point-là que je porterai mon attention et ma vigilance. Voilà.
Alors, moi, je vais rebondir en 2 minutes sur ce que vous avez dit. Moi, ma principale crainte, ma principale crainte, c'est que les taux longs en Europe montent. Alors, donc, que l'inflation sera jugulée avec la baisse des taux. Si jamais il y a un peu d'inflation, comme ce que vous semblez dire, ça freinera la baisse des taux et ça viendra mettre de l'eau à mon moulin, parce que si on freine la baisse des taux, on pourrait avoir ces taux longs qui montent. Si les taux longs européens, et là je pense vraiment à la France et je pense vraiment à mon pays, si les taux longs européens montent, automatiquement, ça va surenchérir le coût de la dette, automatiquement, ça va encore aggraver les déficits, et je pense déjà qu'ils seront plus graves que ce qui est annoncé, et ça nous mettra dans une situation beaucoup plus complexe. Et quand on a des taux longs qui montent, c'est mauvais pour l'immobilier, ça va faire baisser la valorisation de tous les fonds obligataires et beaucoup de gens qui veulent prendre peu de risques ou beaucoup moins de risques ont des fonds obligataires et ils vont avoir ou des résultats pas bons ou des résultats mauvais ou alors des résultats voire très 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 mauvais. Et tout ça, c'est des choses qui s'enchaînent. Et donc, oui, j'ai comme vous, je partage le sujet de crainte sur la macroéconomie. Voilà, et ben ça termine ce point marché qui était très dense, qui était très varié avec des positions un peu différentes, un peu moins de consensus que d'habitude. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Et c'est maintenant au tour de Mehdi Rajdi d'H2O. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Bernard, bonsoir au David.
Voilà. Alors, et deux choses. Donc, on est ici pour parler de l'OST. On n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois que vous êtes passé. Mais juste avant, je voudrais revenir sur les fonds. Donc, Bruno Kras nous disait, on a mal fini l'année parce que notre scénario ne s'est pas enclenché, mais vous allez voir, ça va rebondir fort au mois de janvier. Donc, je pense qu'il ne s'est pas trompé. Vous nous donnez les chiffres de 2, 3 fonds phares, mais ça a effectivement rebondi plutôt fort au mois de janvier. Et donc, juste, allez, en 2, 3 minutes, un petit panorama. Et vous êtes toujours sur la même ligne? Vous pensez que vous allez continuer à avoir une forte pression haussière? Ou alors ce rattrapage que vous attendiez est fait? Et en fin de compte, j'ai presque envie de dire, votre fin d'année, ça aurait dû être le 31 janvier. Et maintenant, on repart pour une nouvelle année.
Oui, bah c'est toujours la problématique, effectivement, de juger sur des années calendaires, puisque à un mois près, on terminait positif sur la plupart de nos fonds. Le fonds phare multibonds aujourd'hui doit être aux alentours de plus 15. Mais pour nous, ce n'est que le début d'un cycle. C'est-à-dire que Bruno l'expliquait bien la dernière fois lors du dernier podcast, la dernière émission. Il y a effectivement aux États-Unis, on parlait des problématiques de dette, on parlait de ces problématiques de taux, une économie qui a très très bien résisté en 2024, qui a été cette résistance a été prolongée par l'effet Trump. Nous, on pense que le moteur, pas en surchauffe, mais en tout cas, il chauffe fort et qu'on va devoir revoir un peu cette idée du triptyque dollar fort, obligation US forte et action forte. Ça ne peut pas perdurer. Et on constate finalement que Trump arrive en pouvoir, ça laissait penser que ça allait continuer. Et on l'a vu avec les droits de douane, les tarifs qu'il a mis en place. Finalement, c'est une posture aussi pour négocier. Et cette négociation, elle permet à d'autres devises de performer depuis le début de l'année, ce qui a été un bon relais de croissance pour nous, de performance pour nous dans les produits. Donc, pour répondre à votre question, nous, on pense que ce n'est qu'un début. Il y aura de la volatilité parce que Trump est au pouvoir et Trump, c'est de la volatilité sur les marchés. On le voit encore avec les annonces qu'il a pu faire sur les tarifs douaniers. Néanmoins, on pense que la tendance, elle est là, elle peut perdurer un petit moment. Donc, ce n'est que le début du rattrapage pour nos produits, je pense.
Alors, vous avez dit, tout ne peut pas être fort. On ne peut pas avoir un dollar fort, on ne peut pas avoir des actions fortes, on ne peut pas être fort. OK. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va baisser, ou deux, ou trois. Et le tiercé des perdants, d'après vous, c'est lequel? Le premier qui va baisser ou celui qui doit baisser, c'est lequel?
Le plus simple pour Trump, ce serait le dollar.
De faire baisser le
Ce
dollar?
serait de faire baisser le dollar. Pourquoi? Parce que le consommateur américain, il a un effet de richesse naturel avec les actions. Quand les actions montent, il est pas, contrairement aux Européens, l'Américain investit beaucoup sur les marchés. Et donc, il a un sentiment de richesse qui est énorme, notamment l'année dernière, avec les marchés US qui ont très fortement, marchés actions, qui ont très fortement performé. Sur les marchés obligataires, il a un peu moins la main, puisque ça dépend un peu plus de la Banque centrale américaine, même s'il met une énorme pression sur la Banque centrale américaine. Mais il doit aussi faire attention à la dette. Et donc, il a besoin que les taux baissent. Mais pour ce faire, il faut que l'inflation, elle baisse aussi. Donc l'inflation baissera certainement, mais elle ne baissera pas aussi fort qu'on peut le penser. Donc des taux à zéro, imaginez qu'on aura des taux à zéro comme on a pu les connaître il y a maintenant 5-6 ans, ça paraît improbable. Une inflation à zéro, ça paraît également improbable. Donc le levier, le paramètre le plus simple à piloter serait le dollar.
Ok. Allez, David Caffon, juste un petit rebond là-dessus. Dans un an, vous voyez le dollar plus cher, enfin moins fort ou plus fort qu'aujourd'hui par rapport à l'euro?
C'est pour David ou pour moi?
David
Ah, pardon.
Caffon. Et David, on vous entend partie.
Si, si,
Si.
non. Voilà. Alors. Là, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses contraires. Alors, un, je suis tout à fait d'accord que le plus simple, c'est de faire baisser le dollar. Ça, c'est sûr. Maintenant, comme vous le savez, c'est un jeu relatif et on va se retrouver avec un différentiel de taux d'intérêt entre la Fed et la BCE qui va quand même soutenir le dollar. Et donc, difficile de se prononcer aujourd'hui sur, oui, à la fin de l'année, le dollar sera beaucoup plus bas que là où il est actuellement. J'ai pas d'opinion forte là-dessus.
Ok,
Peut-être
allez.
pour rebondir, Bernard, sur ce que dit David,
Ouais.
quand je parle du dollar, c'est vrai qu'on a tendance, nous, en tant qu'Européens et Français, à penser dollar-euro. Moi, quand je pense dollar qui s'affaiblit, c'est pas forcément une vue forte sur l'euro, c'est plus dollar, notamment contre d'autres devises type émergentes, peso mexicain, real brésilien, voilà, ce type de devises qui, un, bénéficient de la croissance mondiale, qui reste robuste, et d'un dollar un peu plus fort avec un différentiel de taux qui est favorable à cette devise-là.
D'accord. Allez, on quitte la gestion H2O et on en vient maintenant sur l'OST. Donc l'OST, elle est terminée. Je vais vous dire, c'est un petit peu comme les élections. Est-ce que vous avez fini tous les comptes ou est-ce que ce n'est pas encore fini? En fin de compte, qu'est-ce qui ressort un petit peu de cette OST? Quels sont les premiers enseignements que vous en tirez et comment ça va continuer et peut-être quand, si vous avez déjà des dates précises à donner
Ouais,
pour les clients qui ont souscrit?
alors, tout à fait. Alors, juste pour être sur le terme juridique, alors, effectivement, c'est une OST, une opération. Alors, ce n'est pas une OST, une opération sur titre, mais ça s'apparente à ça. Donc, juste pour être, si on veut être très
D'accord.
compliant, ce n'est pas vraiment une OST,
En
mais
tout cas,
voilà, pas.
les compagnies d'assurance nous ont écrit en parlant d'une OST.
Oui, tout à fait, parce que dans les systèmes, dans les tuyaux, mais bon, peu importe. Effectivement, alors, elle s'est terminée, pour les clients, elle s'est terminée le 24 janvier. C'est-à-dire que le 24 janvier, les clients devaient remettre des codes pour pouvoir participer à l'opération. Maintenant, il y a encore un mois, aujourd'hui jusqu'au 24 février, hein, il y a, les dépositaires peuvent remonter leur position et dire, voilà, la participation de chaque compagnie d'assurance, par exemple, et de temps, etc., etc. Donc, jusqu'au 24 février, on n'aura pas encore le taux de participation final. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, si on compare aux élections, on va dire qu'il est 19h30 avant le 20h, on sait qu'on a un taux de participation qui sera élevé, voilà, supérieur à 65%, je pense. On voit qu'une large majorité, souvent silencieuse, d'investisseurs voulait tourner la page de ces fonds cantonnés, de ces side pockets. On est plutôt satisfait là-dessus. Après, pour répondre sur les aspects opérationnels, donc 24 février, c'est une date importante puisque c'est la remontée des dépositaires. Et ensuite, le paiement, donc pour les investisseurs, il se fera d'ici le 31 mars. Alors, j'insiste, il y a deux choses, hein. Il y a le compte-titres et l'assurance-vie. En compte-titres, ce sera bien plus rapide pour l'investisseur parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. En revanche, sur l'assurance-vie, le paiement se fera à l'intermédiaire et ensuite il y aura un délai de traitement par l'intermédiaire pour que l'assuré touche l'argent. Comme ça avait été le cas pour les remboursements 1 et 2 qui avaient été faits en janvier 2023 et mars 2024.
À quelle date, comme le prix pouvait être différent suivant le taux de participation, à quelle date vous allez publier les prix exacts?
Je pense vers entre le 1 et 15 mars.
D'accord,
Entre le
première
premier,
quinzaine de mars, les
on
prix.
aura les prix définitifs, tout à fait. Puisqu'on aura le taux de participation définitif, je pense, tout début mars. Ensuite, il faut le faire par classe par part, pardon. Et ensuite, on pourra communiquer là-dessus. Il y aura une communication sur le taux de participation et ensuite on pourra décliner le montant remboursé par part.
Bon, alors là, on va rester dans le monde du conditionnel et dans le domaine du conditionnel, mais vous avez dit que la participation, elle vous semblerait être autour de 65%. Bon, je pense que si vous dites ça, c'est par rapport aux remontées que vous avez déjà, et puis avec les compagnies d'assurance qui ont dit oui, c'est assez facile, c'est 100% du stock qui remonte, puisqu'elles ont dit oui, et enfin, même si ce n'est pas 100%, c'est au moins 90%, puisqu'on connaît tous l'inertie des clients et la difficulté de mettre en marche des systèmes comme ça. Donc, il y a peu de clients qui vont dire non, moi, je ne veux pas. Et voilà, je sais ce que nous, on a conseillé aux gens de suivre, et je sais ce qu'il a fallu déployer comme énergie. Même à des gens qui ont dit d'accord pour ensuite avoir le document, envoyer le document, vérifier que le document est là, donc ça prend toujours du temps. On pourrait se retrouver avec un prix supérieur à combien du prix qui était coté? Parce
Du prix qui est coté,
qu'il y avait une échelle.
quoi qu'il advienne, hein, par rapport au prix coté, la valeur estimée aujourd'hui des side pockets, le prix offert, même si on prend le prix minimum, il est toujours supérieur au prix affiché
Mais en
aujourd'hui.
prenant en considération 60 ou 65% de participation, ça
Ça va
marcherait
jouer, ça
combien?
joue, non, ça joue marginalement, mais ça peut être entre 5 et 10% à peu près,
Entre.
ce qui est pas négligeable.
D'accord? Et s'il y avait eu 100% de réponse, c'était encore beaucoup moins, c'est ça? C'est-à-dire, en fin de compte, c'était une enveloppe que vous aviez allouée.
Exactement. En
L'idéal,
fait,
ça aurait été que je sois le seul à répondre. Et là, je prenais toute enveloppe, c'est ça?
c'est ça. En fait, moins il y avait de participants. Voilà, c'est pas intellectuellement, c'est vrai que c'est pas évident à envisager, mais c'est moins il y a de participants, plus le remboursement était élevé. Alors après, c'était plafonné, c'est-à-dire qu'on pouvait pas être remboursé plus que la valeur estimée initiale des side pockets. Mais effectivement, le gâteau, on se partageait le gâteau à moins de personnes. Mais si on avait eu un taux de participation à 100%, donc c'est les prix sur les montants sur lesquels nous communiquions, globalement, fonction des fonds, mais si je prends en moyenne, c'est à peu près 3 fois le prix de la dernière valeur estimée des side pockets qui était remboursée. Mais ça varie en fonction des parts et des fonds.
Ah, l'enveloppe n'était pas allouée de la même manière pour les parts et les fonds, suivant les départs. Il y avait
Tout à
des
fait.
allocations différentes, d'accord.
Exactement. En fait, l'idée est toujours la même. C'est un peu complexe, mais très rapidement. Elle est de faire en sorte que qu'on arrive à un taux de recouvrement qui soit compris entre 87 et 93%. Ce taux de recouvrement, il prend quoi? Vous êtes porteur des fonds le 28 août 2020, moment où il y a la scission. Vous êtes porteur donc du fonds, du fonds H2O. Le 14 octobre 2020, les fonds réouvrent. Et là, vous retrouvez avec un FCP et une side pocket. Si vous avez décidé de vendre le 14 octobre 2020 le FCP, donc la partie liquide, il faut qu'à minima, vous recouvriez entre 87 et 93% de votre investissement du 28 août avec le montant de l'offre. Donc ça veut dire j'ai vendu le FCP et avec les deux remboursements qui ont déjà eu lieu sur les fonds cantonnés plus l'offre, il faut que je récupère au minimum 87 euros si j'avais 100 euros le 28 août. Voilà, pour faire simple. Donc
D'accord.
c'est comme ça qu'a été montée l'offre, qu'elle a été constituée, puisque, et c'est important Bernard, beaucoup pensent, imaginent et ont réduit leur investissement parfois au produit H2O uniquement sur la side pocket. Ils se sont dit, je n'ai que la side pocket, mais ça n'existe pas. Personne ne détenait 100 euros s'il avait 100 euros sur la side pocket. Il avait forcément un FCP qui constituait l'essentiel de son investissement. Et une side pocket. Si je veux prendre une image, c'est comme si vous aviez en fait un appartement avec un parking dans un lotissement. Vous avez vendu votre appartement, il vous reste le parking. Et en fait, le parking, vous êtes obligé de le vendre à un prix parce que c'est la copropriété qui décide du prix. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec les side pockets. Vous avez vendu l'appartement si vous avez vendu le FCP. D'autres l'ont conservé, mais certains ont décidé de vendre le FCP. Ils ont oublié qu'ils ont vendu. Cet appartement, ils n'ont que le parking vendu à un prix forcé, puisque c'est la copropriété qui décide du prix, et ça, c'est finalement la side pocket. Mais pour avoir la globalité de la restitution globale de votre placement, il faut bien additionner votre appartement plus le parking.
Ça paraît bien. Et alors après, dans l'offre telle que vous l'aviez écrite, vous aviez laissé en suspens quelque chose en disant, voilà, bon, ben, nous, on va récupérer ces parts. Ces parts, elles représentent des obligations non cotées. Et on va travailler ces obligations, voir comment on peut en retirer un argent X ou Y. Et donc là, ce que je disais, vous allez nous confirmer et nous l'expliquer. Donc, vous allez monnayer une part et dès que vous aurez plus d'argent que ce que vous avez payé, le bonus va commencer à être distribué aux anciens détenteurs de parts, c'est ça?
Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle le retour à meilleure fortune. Donc, en gros, H2O rachète les side pockets. Donc, nous devenons propriétaires des side pockets pour ceux qui participent à l'offre. Et ensuite, il est hors de question qu'H2O gagne de l'argent sur les side pockets. C'est-à-dire que si demain on venait à les vendre, quel que soit le prix, on restituera l'argent au porteur. Alors, ça demande pour les assureurs de tenir un registre avec les assurés, etc., etc. Sur les comptes titres, c'est un peu plus simple, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on restituera
Alors, attendez
tout.
qu'on se comprenne bien. Vous n'allez pas restituer l'argent au porteur au premier euro. Vous allez restituer l'argent après avoir été remboursé de la valeur.
Au premier euro.
Ah, au premier
Au
euro.
premier euro. C'est-à-dire que si demain, je vais prendre des chiffres, aujourd'hui les side pockets, si vous prenez la valorisation estimée des side pockets, aujourd'hui la globalité c'est à peu près 90 millions d'euros. D'accord? L'offre, si vous prenez l'offre, c'est 250 millions. Mais l'offre est indépendante de la valorisation estimée des side pockets. L'offre, c'est H2O qui apporte de l'argent pour racheter ces 90 millions. Si demain, vraiment ce chiffre, hein, il faut le prendre avec des pincettes, c'est à titre d'exemple et d'illustration
Très bien.
purement. Si demain nous les vendons 50 millions, ces 50 millions, nous les rendons aux porteurs, aux ex-porteurs.
D'accord. Donc, en fin de compte, votre offre, c'est la vraie offre, c'est valeur de l'actif plus 250 millions amenés sous forme de dédommagement pour une
C'est
erreur
ça.
de stratégie, c'est ça?
Une
Exactement.
stratégie qui n'a
Et
pas marché. Je ne veux pas vous emmener sur un terrain de
exactement.
ça.
L'idée, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs ce que nous réclamaient les porteurs, hein, c'est retrouver la liquidité sur ces placements. Donc, pour qu'on retrouve de la liquidité, on a fait cette offre de 250 millions. Et effectivement, c'est 250 plus X millions qui seront retirés de la vente future de ces pocket. On espère en tirer le plus gros montant. Maintenant, difficile aujourd'hui de vous dire quel montant pourra être restitué à ses porteurs. Bien, partez. Ben écoutez, c'était très clair. Donc il n'y a plus qu'à être patient, qu'à attendre un petit peu plus qu'un mois pour savoir, et encore après 15 jours, 3 semaines pour être payé. Merci, merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup d'être venu. Bon, ben, écoutez, on souhaite que l'année soit très riche en événements et qu'on ait une hausse suffisamment forte pour faire oublier la baisse de l'année passée.
C'est déjà le cas.
Hein?
C'est déjà
Attendez,
le cas. Mais l'année n'est pas
l'année,
finie.
elle n'est pas
Voilà. Mais
finie.
en tout cas, le début d'année fasse déjà l'année dernière.
Voilà, le début d'année est de qualité, et donc ça permet de rappeler que voilà, la volatilité d'un produit, malheureusement, ça fait qu'il y a des années sans et des années avec, et que c'est toujours dur de savoir si on reste, si on part, si on renforce. C'est vraiment le métier, et c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Mehdi. Je vous dis à très bientôt, et bonne chance pour cette année. Au revoir.
Merci Bernard, à très bientôt, au revoir.